Bonjour.
Allez, on va démarrer. Voilà, bonjour tout le monde. On va juste parler quelques minutes sur... On va partir d'un verset et on va juste développer une idée. Bon, vous allez me dire, je suis anachronique. Je vous prends un verset qu'on prend d'habitude à Noël. Donc, bon, bah, désolé. Bon, et déjà, il pleut, il neige pas, mais il pleut. C'est déjà pas mal. Mais un verset que l'on prend à Noël, on a, comment il s'appelle, le compositeur de musique Handel, qui a fait un grand morceau de musique, l'Alléluia, pour parler de ce verset qui parle de manière prophétique de Christ. Et vous allez voir l'idée que j'ai, en fait, ou juste je voulais vous laisser, parce qu'hier, dans l'après-midi, sur nos églises dans les talents, alors ce que je dis, ce n'est pas du tout le résumé de l'après-midi, c'est juste moi, pour moi, voilà. Il y a juste voilà, un mot qui n'est pas exactement comme ça ici dans le verset, mais c'est quand même là qu'on va aller, c'est éblouir. Et c'est pas que j'ai été forcément ébloui par les dons de tout le monde hier, mais en fait c'est d'être ébloui par Dieu. Et on va lire le verset, parce que là ils disent c'est bon, ils nous parlent du verset de Noël, tout ça. À un moment donné, on n'aura pas les cadeaux. Alors, Ésaïe chapitre 9, au verset 5, 5 ou 6 selon vos versions, peu importe. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voilà, on va s'arrêter là. Et juste l'idée qui va être très courte ce matin, c'est que, voilà, moi hier, en écoutant certains chants de louanges ou autres durant l'après-midi, j'étais touché par Dieu, je ne sais pas pourquoi, et puis moi j'étais touché par Dieu, et les autres à côté n'étaient pas forcément touchés pour la même chose ou au même moment, et même moi je ne sais pas pourquoi j'étais touché par Dieu. Mais par contre, je me suis dit, on a besoin d'être régulièrement touché par Dieu, on a besoin d'être régulièrement ébloui par Dieu. Et quand on parle d'éblouir, c'est pour ça que là, ici, il y a le mot merveilleux, mais on est forcément ébloui par quelque chose qui est au-dessus de nous, qui nous dépasse, qui est beau, qui est excellent, etc., etc. Mais la réflexion que je me faisais était la suivante. Parce qu'on peut vivre notre vie chrétienne en se disant « Oui, en fait, j'ai envie de vivre des émotions avec Dieu. » Et on va chercher les émotions dans la musique, par exemple, ou dans des activités dans lesquelles on est à l'aise, dans l'église, ou je ne sais pas quoi. Mais la réalité, c'est qu'on a besoin d'être ébloui par Dieu, et pas par les activités ou la musique ou n'importe. Et pour ce faire, du coup, ça signifie qu'on a besoin d'avoir, autant que faire se peut, une définition, en tout cas des indications les plus claires possibles sur qui est Dieu. Et en même temps, ces indications, si on parle bien du Dieu qui a inspiré la Bible, elles doivent nous dépasser. Ici, il est dit, en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, la souveraineté reposera sur son épaule, on l'appellera merveilleux conseiller. Merveilleux, il y a d'autres traductions qui traduisent par miracle. Mais le mot en hébreu, il ne parle pas forcément de miracle comme on l'entend nous. C'est un truc qui n'est pas faisable. C'est un miracle, ça ne peut pas arriver. Ce n'est pas exactement ça, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer, qui est compliqué à comprendre en fait. Donc, il est merveilleux. Mais ici, il nous est dit plusieurs choses. Il nous est dit qu'il est un conseiller. Et peut-être que je peux rechercher des émotions avec Dieu, mais je ne recherche pas nécessairement son conseil. Donc je ne lis pas forcément la Bible plus que ça, parce que ça va, je viens à l'église, j'écoute un peu, et puis l'important c'est qu'on s'éclate à la louange, que j'écoute mes CD chrétiens à la maison, que je priote un peu, et que voilà, je me sente bien dans mon âme. Tant mieux. Mais Dieu souhaite plus pour vous et pour moi. Il souhaite qu'on rencontre le Dieu vivant, le Dieu réel, celui qui est miraculeux, celui qui est merveilleux, celui qui est au-dessus de tout, celui qui est capable de vous conseiller précisément pour le pas à faire demain. Vous savez, des fois, le conseil, c'est pas qu'est-ce que tu as à faire, c'est il va falloir que moi, Dieu, je change quelque chose là dans ta vie. Sinon, tu ne pourras jamais bien vivre ça. Le conseil, des fois, c'est en fait, j'ai un problème de relation ou j'ai un problème dans une situation, dans une autre, dans l'église, dans la famille, peu importe. Et je bataille avec chercher des solutions. Des fois, je vais chercher des solutions morales, des solutions, allez, qui vont sortir du bien et du mal que j'arrive à trouver dans la Bible. Mais Dieu, il peut être qui dit, non, 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 je t'explique, on va démarrer au démarrage, d'accord ? Le démarrage, c'est en fait, le problème, c'est toi. Ah ben, mais moi, j'ai pas envie d'entendre ça. Moi, je veux qu'on ait une bonne louange, comme ce matin, on s'éclate à la musique, tout ça, que Pasteur Jean, il dise des trucs qui font pas trop mal, je lis mes 5 versets par jour, et puis ça va, quoi. Ah, mais Dieu, en fait, Dieu n'est pas dur avec nous, il n'est pas exigeant avec nous. Il veut le meilleur pour nous. En fait, il veut que nous le rencontrions réellement. Ici, donc, il est parlé d'être un conseiller. Il est dit que c'est un Dieu puissant, un Dieu puissant. Des fois, on essaye de faire, vous savez, la méthode Coué. Coué. Allez, à force de croire le truc, ça va arriver. Non. Croyez sincèrement ce qui est dit dans la Bible, que Dieu peut. Dieu peut, ça ne veut pas forcément dire que Dieu va faire. Il y a certaines choses, oui, parce qu'il les a promises. Mais il y en a d'autres, non. Là, tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un qui a une maladie et qui me disait quelque chose de très édifiant et surtout de très juste bibliquement. Mais il aurait dit autre chose. J'aurais simplement eu compassion de lui parce que je ne suis pas à sa place. Voilà, il me dit, si la course doit s'arrêter aujourd'hui pour moi, ce n'est pas un problème. C'est embêtant parce que, ben voilà, j'ai des projets, machin, je ne suis pas vieux, et ok, mais... C'est pas un problème. Et pourquoi c'est pas un problème ? Parce que je crois dur comme fer qu'il peut me ressusciter. Pourquoi Abraham, il a amené Isaac en haut de la montagne Morija ? Il a dit à ses serviteurs, vous restez là en bas avec les animaux. Non, on monte avec l'enfant et avec le jeune homme. Et puis, on va revenir. Hein. On va revenir. L'épître aux Hébreux nous l'explique. Dans Hébreux chapitre 1, il dit qu'Abraham était convaincu que Dieu pouvait ressusciter Isaac. Et pourquoi il le croyait ? Parce que Dieu avait parlé avant, il avait fait une promesse. De ta postérité, il va y avoir un grand peuple. Et de ta postérité qui sort de ton sein. Et le seul enfant qui est sorti de son sein au moment où il doit amener Isaac en sacrifice, c'est Isaac. Ismaël ne sort pas de son... Enfin, il sort de son sein, mais... c'était pas dans les règles de l'art, on va dire. Donc Dieu lui a dit que ça ne serait pas lui. Et quand il lui dit, tu vas amener ton... Isaac, il lui dit, tu vas amener ton fils unique. Ah, mais attends, tu as un autre enfant qui a 14 ans. 14 ans, non, plus. 14 de plus que le premier. T'as qu'un enfant ? Ben oui. Et en fait, on a besoin de regarder les choses avec le regard de Dieu. Et le regard de Dieu, c'est... Tu as eu Isaac, tu as eu Ismaël, mais en fait, selon les promesses de Dieu... Selon la vie spirituelle, selon l'avenir, il n'y a que Isaac qui compte. Il y aura des choses qui vont arriver pour la suite pour Ismaël, mais la promesse, elle est par Isaac. Et moi, qu'est-ce que je regarde ? Est-ce que je regarde ce que j'ai envie de regarder, ou est-ce que je regarde ce que Dieu dit ? Et plus je suis précis avec ce Dieu qui peut me conseiller au quotidien, ce Dieu qui peut... faire quasi, enfin, pas quasiment tout, il peut tout faire sauf péché, il peut tout faire sauf péché, parce que ça aussi c'est pareil, des fois on dit, oui mais attends, Dieu il peut tout faire, mais en fait quand même il y a des choses, oui effectivement, Dieu ne peut pas pécher parce que c'est pas son caractère, donc effectivement il va pas faire ce qui est contraire à son caractère. Vous savez, une chose que Dieu ne fera pas, il nous forcera pas à lui faire confiance. On va dire, il va nous séduire, mais il ne va pas nous violer. Et donc, il y a des gens qui vont aller en enfer. Après, c'est pareil. On propose des temps d'évangélisation, etc. etc. Est-ce que je crois que ce que dit Dieu ? Il y a un endroit qui s'appelle l'enfer, qui n'est pas écrit, le mot n'est pas utilisé comme ça dans la Bible, effectivement, mais des tourments éternels, là où le ver ne me meurt jamais, etc., le feu éternel, etc., etc., où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Est-ce que je crois, alors je ne dis pas que je pense 24 heures sur 24 à ça, mais est-ce que je crois que c'est vrai et que les gens ont besoin d'entendre parler de ce que Jésus est et ce qu'il a fait pour eux ? si je le crois, ben, un temps soit peu, je vais le faire. Et une chose que j'aime bien avec l'évangélisation dans la rue, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, hein, on peut faire bien d'autres choses. On a des relations autour de nous, en général, plus ou moins. Et donc, on est appelé là aussi à témoigner de Christ de différentes manières. Mais ce qui m'intéresse avec l'évangélisation dans la rue, c'est qu'en fait, je lis, un commandement, une parole de Dieu, et je décide objectivement, à froid, d'y obéir, de m'organiser pour y obéir dans une certaine mesure. Donc je me dis, ben, vendredi, samedi, il y a évangélisation, je vais y aller à une des deux. Et chaque semaine, je vais faire à peu près ça. Et puis l'autre, il a un emploi du temps différent, ça ne se répète pas toutes les semaines. Mais, ok, il y a ça, donc je sais au moins que je m'organise pour être sûr que je vais témoigner à des non-croyants du salut en Jésus-Christ, peut-être une fois par semaine, peut-être une fois tous les 15 jours, peut-être une fois par mois, selon ma vie. On n'a pas tous la même vie, on n'a pas les mêmes emplois du temps, voilà, c'est tout. Mais ça je trouve ça assez intéressant. Et encore une fois, il n'y a pas que cette manière d'évangéliser. Et ensuite, il nous est dit, on l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Père éternel, et je m'arrêterai là. Vous savez, sur Terre, il y a des gens qui n'ont pas connu leur père. Il y en a qui l'ont pas connu parce qu'ils ont tous eu un père, forcément, biologique en tout cas. Il y en a, ils l'ont connu, mais c'était pas toujours le meilleur exemple de paternité, on va dire. Et il y a des gens qui vivent mal la relation avec le père, pour X raisons, soit qui dépendent d'eux, soit qui dépendent des autres. La restauration dans ce domaine-là, par exemple, elle est dans le fait qu'à un moment donné, je m'arrête et je réalise et je suis ébloui par le fait que Dieu est mon Père. Qu'est-ce qu'il nous dit en Jean ? Nous avons reçu l'autorité pour être appelés enfants de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, il est mon Père. Et ça peut changer beaucoup de choses dans notre âme, vous savez. Parce que objectivement, on peut même avoir raison, on peut être déçu de notre Père. On peut être déçu de l'avoir jamais vu. On peut être déçu de plein de choses. Alors après, il y a déçu, simplement, il n'a pas été très bon, puis des fois, il t'a tapé sur la tête. Mais peu importe le degré où il a été complètement absent. Et puis des fois, vous savez, on peut être absent en étant là. Hein. On est dans la maison, mais en fait, on est absent. Ça aussi, pour compléter le truc. Parce que des fois, on se dit, oui, le père absent, c'est celui qu'on n'a jamais vu, qu'il a divorcé, il est parti, il m'a laissé avec maman, etc. Non, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi celui qui est là. Il est là tous les jours, il est là tous les soirs, mais il n'est pas là. Ça aussi. Et ça, forcément, ça fait mal. Mais vous savez quoi ? Nous avons un Père. Et donc, nous pouvons être éblouis par qui est ce Dieu, ce grand Dieu. Comme il est dit dans un psaume, il est dit « Qui est ce Dieu de gloire ? Porte et levez le volento. » Et nous avons besoin d'être touchés régulièrement dans notre vie par cette adoration, mais on va l'être si on a une vision un peu plus éclairé de qui est Dieu. Si c'est juste le Dieu que je m'imagine, je vais me frisouiller dans les émotions de temps en temps, mais ça ne va pas être très utile au quotidien. Donc je vous laisse juste avec ça. J'espère que c'est utile pour vous. Nous avons un Dieu qui est merveilleux. Amen.